Autre radio, autre culture, bonjour. Audio People et autres radios, autres cultures vous présentent les deuxièmes rencontres de la création sonore qui se sont déroulées au SAE Institute de Paris, les 26 et 27 mai 2010. Bonne écoute.
Avec un petit peu de retard, bonjour. Bienvenue à cette présentation qui est un peu atypique par rapport au reste de ce qu'on peut voir ici, où bon, on parle de studio, on va en parler ce soir, on parle de cinéma comme hier. Là, on va parler ce matin plus précisément du son dans la muséographie. C'est, en fait, c'est d'un domaine dans le son dans les musées. Pendant longtemps, il n'y avait rien, ou bon, le musée fallait se taire, ou alors il y avait les audioguides, ou de temps en temps un disque en fond sonore, mais ce n'était pas vraiment un domaine où on cherchait à innover, à apporter quelque chose. Et c'est depuis à peu près peut-être une dizaine d'années, c'est venu par des institutions comme le Centre Pompidou, mais on se met de plus en plus à se rendre compte que le son peut apporter quelque chose dans une exposition, qu'elle soit à thématique musicale, d'ailleurs, bon, c'est mieux, ou pas forcément. Et il y a des gens comme Vojto qui se sont intéressés au sujet, qui sont arrivés avec des idées, des concepts, il faut travailler avec d'autres. C'est comme d'habitude dans le son, il y a des concepteurs, des réalisateurs, ça interagit entre les deux, enfin, c'est un domaine passionnant. Et on se rend compte dans la manière de faire les choses aussi, que parfois on se fait des idées, on dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et dans la réalité ça se passe beaucoup plus simplement, c'est efficacité avant tout, et c'est parfois les solutions les plus anciennes qui donnent les meilleurs résultats, la meilleure fiabilité sur des mois que peut durer une expo. Donc je vais laisser Philippe ici présent, Philippe Vojtovic, se présenter, en sachant qu'il n'a pas du tout fait ça, enfin c'est récent pour toi, le passage à la muséo, je crois que tu as commencé dans l'enregistrement et dans la sono si je me souviens.
Ouais, j'ai commencé avec... travaillé avec Alain Français, chez De Préférence, donc j'ai fait la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville, on a fait beaucoup de live à Antibes, beaucoup d'enregistrements de concerts, beaucoup de gros événements dans les années 80, ce que j'appellerais les années Jacques Lang, les 100 ans de la Tour Eiffel, les choses comme ça. Après, j'ai continué à travailler dans les studios mobiles avec Le Voyageur, et en 2000, j'ai travaillé sur une première expo à la réouverture du Centre Pompidou, où là, ça a été la découverte en fait du son dans les musées, c'est-à-dire que là on a commencé à faire une grosse installation sonore pour une expo qui s'appelait Le Temps Vite. C'est parti d'une création d'un artiste. Un artiste a créé un environnement sonore, c'était une vague qui traversait tout l'espace d'expo du Temps Vite, qui était au niveau 6. Et donc le son a commencé à faire son apparition dans le Centre Pompidou. Et les artistes ont commencé à travailler beaucoup sur l'environnement sonore, sur le son, etc. Donc comme disait Franck, soit c'est en rapport avec l'expo type Miles, Lennon, guitare, Gainsbourg, etc. Soit c'est carrément une œuvre d'artiste qui crée un environnement sonore ou une illustration sonore d'une œuvre particulière. Donc après, j'ai participé à l'expo Lennon à la Cité de la Musique, à l'expo Gainsbourg, où je n'ai pas participé à la création du son en lui-même, mais à ce que j'appellerais au setup, c'est-à-dire que j'ai installé tous les systèmes dans le musée pour cette expo. Et là, j'ai fait l'expo Miles Davis à la Cité, et puis qui est parti là depuis un mois à peu près à Montréal, c'est-à-dire qu'on a pris la même expo qu'on a fait à Paris, et qu'on a été remonté à Montréal en l'adaptant aux besoins du marché nord-américain, qui n'est pas du tout le même que le marché européen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même approche dans les musées que nous, ici en Europe. Donc, comme disait Franck, on part surtout sur de la simplicité et de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre la tête à utiliser des machines ésotériques. C'est des machines qu'il faut qu'elles tournent 10 heures par jour, en moyenne 6 jours par semaine, et tout ça pendant 3 à 6 mois. Et il faut qu'elles s'allument avec un disjoncteur. Donc, tout ce qui est computer, etc., on oublie tout de suite, parce que c'est garanti que ça va tomber en panne. Que ce soit du Mac ou du PC, pour mettre tout le monde d'accord, ça plante aussi bien l'un que l'autre, de toute façon. Donc, on part sur des systèmes extrêmement simples, c'est-à-dire qu'on grave tout sur CD ou DVD, principalement plus du DVD. On met des lecteurs de DVD standard, on fait un autoring sur le DVD pour que, quand le DVD, le lecteur, démarre sur secteur, il lance le disque, et une fois qu'il est arrivé au bout, il repart au début, et il tourne en boucle comme ça toute la journée. Comme ça, s'il y a une panne, que le lecteur DVD il tombe en panne, on le prend, on le jette, on en met un neuf. On ne se pose même pas la question de le réparer ou quoi. Un lecteur DVD, ça vaut 15 euros chez n'importe quel revendeur.
Donc ça, c'est pour les points ponctuels tels,
voilà, ou même des sources sonores stéréo. Là, je travaille sur une expo pour les rencontres d'Arles, ça sera une expo sur le punk. Je mets que des lecteurs de DVD alors qu'il n'y a pas de vidéo, simplement parce que ça démarre tout seul. Et que je n'ai pas de besoin de synchronisation. C'est-à-dire que les pièces peuvent tourner indépendamment les unes des autres. Il y a d'autres fois où on a un concept un petit peu plus poussé, où toutes les pièces sont synchronisées les unes avec les autres. Là, dans ces cas-là, on utilise principalement du MX-48 Tascam. Pareil, parce que c'est une machine qui est relativement stable. Moi, je préférais le MX-24 parce qu'il avait un mode théâtre, qu'on appelait le mode théâtre, c'est-à-dire qu'il démarrait sur détection de courant, il lisait sa boucle et il faisait ça toute la journée. Chose qui n'existe plus sur le MX-48. Alors ça, il faudrait demander à Tascam pourquoi ils l'ont enlevé. Et donc, en fait, on avait besoin de synchroniser l'ensemble des pièces de l'exposition parce que toute l'exposition se déroulait et à la fin, des éléments sonores, John et Yoko se parlaient dans l'exposition, mais dans l'intégralité de l'exposition. Donc là, le seul moyen de synchroniser, c'est de mettre un multipiste. Donc en général, on part d'un Pro Tools ou Samplitude ou Nuendo, je ne suis pas raciste, mais bon, j'ai mes préférences. Et après, on couche ça directement sur le MX-48, après on fait une boucle, on fait play et ça tourne tout seul pendant 3, 4, 5, 6 mois.
Donc, parce qu'il y a deux phases en fait, on part de la diffusion là, mais en fait, en amont, il y a toute l'élaboration.
Si tu veux, on peut partir à ce que j'appellerais depuis le...
Quand on fait un projet.
La genèse d'un projet.
Ouais, voilà, t'es contacté.
Bon, on va parler plus, je sais pas, on peut parler de Miles.
On va prendre Miles.
Donc Miles, c'est une expo, la Cité de la Musique a commencé à travailler dessus il y a à peu près 3-4 ans. La durée de mise en route d'une expo, c'est en moyenne 5 à 6 ans, avant que le projet se monte. Parce qu'il y a des problèmes de disponibilité d'œuvres, de choix d'œuvres, de moyens, parce que ça coûte très cher, les œuvres. Ce qui coûte le plus cher dans une expo, ce n'est pas les techniciens, ce n'est pas tout ça, c'est l'assurance. L'assurance des œuvres, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, le commissaire sur Miles, lui, a choisi ses éléments sonores qu'il voulait passer en fonction des périodes. Après, on s'est rencontré avec les architectes pour définir comment on allait diffuser tout ça, parce qu'il y avait énormément de sources sonores. Il y avait des sources sonores à partir de documents vidéo, donc sur des écrans, et des sources sonores qu'on appelait, nous, live. Parce qu'on a voulu différencier le son, c'est-à-dire que tout ce qui était sur écran, documents d'époque, de Miles, etc., était diffusé au casque. C'est-à-dire que le visiteur venait et pluguait un casque. Tout ce qui était plus ce qu'on a appelé les sourdines, c'est-à-dire les pièces d'écoute, était en live. C'était des enceintes. Les gens venaient, s'asseyaient, écoutaient et ressortaient. Et après, il y avait les diffusions des concerts, donc le concert en Allemagne, le concert à l'île de Wight et celui de Paris, où là, c'était aussi une vidéo, mais en live. Pour nous, c'était le seul moyen de pouvoir diffuser autant d'éléments sonores et visuels sans se polluer les uns les autres, sinon ça aurait été impossible, ça aurait été une cacophonie pas possible. Ils m'ont trouvé parce que avant à la Cité de la Musique, j'ai commencé par faire l'expo Lennon, après j'ai fait l'expo guitare, mais en setup, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'étais pas le designer sonore. Je venais uniquement pour monter les setups et c'était un autre designer sonore qui venait finaliser. Moi, ça m'est complètement égal, tu vois. Ça ne me gêne pas de tirer du câble et d'accrocher les enceintes. Je trouve qu'il n'y a pas de honte à faire ça. Et de travailler avec plein de gens différents, c'est toujours bien parce que tu apprends plein de choses. Donc en fait, la Cité me connaissait assez. J'ai fait des expos avec une expo qui s'appelait Replay avec un artiste qui s'appelle Christian Marclay, avec qui maintenant je travaille au Japon. En fait, je voyage beaucoup avec lui sur ses expos. Et ce qui les a un petit peu décidés aussi, c'est qu'ils regardaient un jour le film du concert de la Villette. Et moi, je suis crédité dessus parce que j'ai fait le son du concert de la Villette pour le broadcast avec Alain Français. Donc ils se sont dit, pourquoi on va prendre un autre mec alors qu'il y en a un qu'on connaît très bien et qui va faire très bien l'affaire et ça. Mais bon, c'est parce qu'ils me connaissaient depuis 6 ans. Et puis après, un dialogue avec le commissaire où on s'est mis d'accord sur la façon de travailler, à ce qu'on voulait arriver. Après, les choix des éléments, moi, j'ai pris tous les éléments vidéo, audio. Mathias, qui est le responsable audiovisuel de la Cité, m'a extrait toutes les bandes audio des films vidéo. Moi, je les ai tous retraités, c'est-à-dire dénoisés, un petit peu compressés, parce que je ne conçois pas dans une expo de mettre un film sans traiter l'audio. C'est-à-dire de prendre un DVD et de mettre le DVD bêtement comme ça, avec deux enceintes, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de travail à faire. Deuxièmement, comme c'était une écoute au casque, je trouve ça extrêmement désagréable. Il y avait, je sais plus, une quarantaine d'écrans, un truc comme ça, j'ai plus le chiffre en tête. Mais de se brancher avec un casque et d'entendre psh, 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 au fur et à mesure que tu passes de chaque casque, ou que c'est trop fort et puis qu'après c'est pas assez fort, enfin, pour qu'il y ait un confort d'écoute. Donc j'ai traité tous les films, ça m'a pris à peu près 3 mois. Après, j'ai redonné tous les fichiers audio à Mathias, qui les a resynchronisés à la place des anciens films sur les films. On a couché ça sur des cartes flash avec des lecteurs à 63€ et ça a tenu 3 mois.
Et
3 mois de l'expo, on n'a jamais eu un lecteur flash qui a pété. Après, tout ce qui était sourdine, donc ce qu'on voit là, c'est ça qu'on appelle les sourdines. Ça, j'ai traité tout en live, en direct. C'est-à-dire que c'est pareil, les sources, c'était des DVD. Donc les enceintes, c'était que du Meyer Sound, donc de l'UPMP et du sub USM. Et comme equalizer, j'avais des Lake. C'est pas des processeurs, c'est des équaliseurs.
Ah, c'est uniquement
des équaliseurs.
Okay.
Les processeurs, sont intégrés dans l'enceinte. L'enceinte, elle est processée, amplifiée, tout est dedans.
C'était donc, pour obtenir la couleur que tu voulais.
Ces enceintes, je suis assez fanatique. J'avais écouté, je travaille beaucoup avec ça. Et je sais qu'elles sont facilement, tu peux facilement les travailler. Donc j'ai très peu traité les sons à la base avec cette expo, j'ai tout fait aux amplitudes. Donc je l'ai très peu traité aux amplitudes. Uniquement du denoising, mais très très léger, parce que pour moi, le fait qu'il y ait un petit peu de souffle sur une bande qui date des années 60, ça me dérange pas, quoi. Moi, c'est pareil, les films, il y a des films, j'ai oublié, j'ai dit, je vais rien faire, parce que c'est pas possible. L'image est pourrie, le son est pourri. T'arrives à faire un super son avec une image pourrie. Ça veut rien dire, quoi. Et l'inverse aussi. Donc, j'ai pas trop traité. En plus, je suis parti en me disant, c'est Miles Davis. Les mecs qui ont fait les bandes, c'était quand même pas des manchots. Quand t'écoutes, ça sonne déjà, donc on va pas faire du Vocteau, on va faire du Miles Davis. Mmh. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être le plus transparent, de pas trop torturer les choses, les laisser vivre toutes seules, quoi. Après, bah, je couchais ça sur les DVD, un autoring, terminé, fin du coup, ça tourne pendant 3 mois. Et donc après, cette expo est partie à Montréal, donc on a commencé à en parler alors que l'expo était même pas ouverte à Paris. Et là, se sont posés d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'au Canada, ils ont refusé d'avoir des casques. Alors déjà, eux, ils avaient un gros parc d'enceintes là-bas. Donc dans les sourdines, on mettait plus de l'UPMP, on mettait de la MM4 XP, toute petite enceinte, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça a un petit peu effrayé le commissaire à Paris, Vincent. Donc on a fait une écoute comparative quand l'expo a fermé à Paris. On est allé dans une sourdine, on a mis les UP, et à côté, on a mis deux MM4 sur pied. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé, j'ai eu un peu peur, quoi. C'est-à-dire que vraiment, les deux sons, les deux couleurs sont extrêmement différentes. Il y a des choses qu'on entendait sur les MM4 qu'on n'entendait pas sur les UPMP, du style les raccords de scotch, qu'on entendait sur certains morceaux qu'on n'entendait pas d'autres. Il y a un morceau de Kind of Blue, on n'avait jamais entendu qu'en fait derrière il y avait un batteur. On l'a découvert avec la MM4. En fait, le batteur, il est là, mais il joue pas. C'est vachement marrant, comme tu vois, quand tu écoutes bien les bandes de cette époque aussi, c'est-à-dire que le mec, il jouait pas, mais il était dans le studio. Mais le problème, c'est qu'il bougeait de temps en temps, quoi, ses baguettes, ses trucs. Et tu entendais dans un coin des bruits de caisse, des bruits de... Les mecs sont en train de recorder, l'autre il est en train de bricoler sa batterie. Et on ne l'entendait pas sur le PMP. Donc on a eu un petit peu peur. Et en fait, après, en travaillant un petit peu plus l'écoute et les réglages, on est arrivé à se mettre d'accord qu'on allait de toute façon prendre ça. Après, à Montréal, se posait le problème des casques. C'est-à-dire pas de casque sur aucune des sources écrans. Donc pollution. Donc on a réduit le nombre d'écrans d'une façon drastique. On a mis des enceintes et moi j'ai compressé comme un fou. Pour pas pourrir le reste autour, en privilégiant de toute façon les sourdines. C'est là où se passent les plus belles choses, quoi. Et le musée de Montréal, c'est le musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, en fait, c'est un musée qui s'intéresse d'abord aux Beaux-Arts et après à la musique. Donc, pour eux, la priorité, c'était pas tellement la musique, c'est plus les œuvres d'art, c'est-à-dire des Basquiat, tous ces tableaux, qui étaient plus importants, quelque part, que le côté un petit peu plus documentaire, je dirais, qu'on avait à Paris, quoi. Ça s'est fait très bien, sauf que moi, je suis parti avec 5 jours de retard à cause d'un volcan. Donc au lieu de 10 jours, j'ai eu 5 jours pour le faire. Une expo, ça n'est pas la même à Paris qu'à Montréal ou qu'au Japon ou qu'à San Francisco. Parce que le musée de Montréal est déjà équipé de 48 MM4 XP, de 2 MX-48, d'un Pro Tools. Ils sont extrêmement bien équipés, donc tu ne peux pas arriver en faisant ton caca nerveux en disant « Non, 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 moi je veux pas de ça, virez-moi ça, moi je veux ça, quoi. » À un moment, tu t'adaptes un petit peu aussi à ce qu'ils ont, parce que c'est toujours aussi des problèmes budgétaires. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, étant donné qu'ils ont le matériel sur place, tu t'adaptes. Bon, nous, on l'avait testé à Paris. C'est-à-dire que si on avait vraiment eu un gros problème avec les MM4, on serait passé sur autre chose. Mais comme on a fait le test avant, on a dit, OK, c'est bon, on le fait avec de la MM4. On est parti sur une autre optique d'écoute. C'est-à-dire qu'à Paris, on était parti sur une optique vraiment, ce qu'on appellerait très smooth, très club. C'est-à-dire que, non, en fait, l'idée, si tu veux, c'était que les gens rentrent et se sentent bien, quoi. Et que ça soit jamais agressif, qu'ils se sentent bien, mais comme dans un club, tu vois, un petit club de jazz, tu es dans ton Chesterfield et t'écoutes, et voilà.
Et déjà sur les plans, les deux expos étaient à peu près comparables en superficie, en distribution, où il y avait déjà une adaptation à ce niveau-là?
Pas du tout. Tu es obligé de réadapter complètement, ouais, complètement, totalement le plan, parce qu'à Montréal c'était sur un niveau, à Paris c'était sur deux niveaux. Ouais, donc par rapport au choix du passage de l'UPMP à la MM4, la MM4, en écoutant Vincent, le commissaire, me disait, ce qui te gênait, c'était qu'on était vraiment trop dedans. C'est-à-dire qu'il me disait, t'as l'impression d'être dans le studio, tellement c'est précis, t'as l'impression d'être vraiment au milieu des musiciens. Je dis, bah, moi, j'ai fendu un petit peu la salle, en disant, mais justement, c'est vachement bien, te rends compte, t'es là, t'es comme si t'étais en studio avec Miles, c'est pas pareil que si t'es dans ton salon. J'ai dit, c'est une autre expérience, faut le vendre comme ça, gna gna. Tu trouves une belle phrase et puis tu dis que tu vis une expérience différente. Et voilà, on l'a vendu comme ça, quoi. Et en fait, ça fonctionnait très bien. C'est vrai que c'est une écoute différente qui marchait très bien, qui était jamais non plus, qui te cassait jamais la tête, où tu étais tranquille, tu entendais des trucs. Même Vincent me disait, il y a des moments sur des albums comme Bitches Brew, il découvrait des guitares, des trucs comme ça, alors que c'est quand même un mec qui a écouté des albums plein de fois, quoi. Tu vois, rien qu'au niveau du changement d'une enceinte, parce que derrière, j'ai fait très peu de choses. J'ai quasiment pas équalisé, tu vois. J'ai laissé ça un peu dans le brut, mais du coup, ça révélait des choses qu'il n'avait jamais entendues.
Est-ce que le niveau sonore auquel tu diffuses justifierait des traitements acoustiques dans certaines salles ?
On met tout le temps des traitements acoustiques. Maintenant, si tu veux, c'est... au départ, qu'on a fait du son dans les musées, c'était vraiment une grosse galère, parce que les musées, c'est du parquet partout, du béton, enfin des plaques de placo, du truc et tout. Et là, tout ce qu'il faut pour bien te pourrir la vie. Maintenant, c'est rentré plus dans les mœurs des scénographes d'expo qu'il faut intégrer un côté traitement acoustique. C'est-à-dire que là, sur Miles, c'était moquette au sol partout. Les sourdines, je ne sais pas si tu as une autre photo, il n'y avait aucune surface parallèle. Donc déjà, on réduisait les échos, les trucs comme ça. Le plafond, on avait mis des panneaux Texa pour isoler un petit peu plus. On le voit à Montréal. Comme on était sur un plafond beaucoup plus grand, j'ai demandé qu'ils ferment les plafonds des sourdines et qu'ils le traitent avec de l'absorbant.
Voilà, encore ça, parce que c'est localisé, mais dans des endroits où les gens circulent et tout, c'est plus grand. Donc c'est pareil, un peu de mousse à gauche à droite.
Ouais, c'est un petit peu de mousse à gauche à droite, c'est de la moquette. Oui. Des fois, c'est les enceintes qui tapent pas directement trop loin, mais carrément par terre.
Oui,
il y a cette astuce. Tu vois, il y a aussi l'astuce de dire on va faire un son qui part moins loin, donc je fais taper les boîtes par terre. Je l'ai fait à Montréal sur une sourdine. C'est toujours le même dispositif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la projection, il y a deux UPMP, un sub, et à côté, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que derrière, à gauche, tu as Fille du Kilimanjaro, et à droite, tu as l'écran avec Someday My Prince Will Come, donc un jour, mon prince. Et bon, c'est vrai que ça se pourrissait un petit peu les uns les autres, mais il m'est arrivé une anecdote assez marrante, c'est que le soir du vernissage, et donc à la fin du vernissage, une demi-heure, trois quarts d'heure avant que ça ferme, j'aime bien faire ce que j'appelle moi le tour du chien. C'est-à-dire que je retourne dans l'expo, voir un petit peu comment les gens se comportent, où les gens restent, et où sont les autres problèmes. Et à un moment, je vais au concert en Allemagne, et il y avait Marcus Miller qui était assis. Et le problème, c'est que ça allait fermer dans un quart d'heure, quoi. Et le mec, tout le monde l'avait oublié. Et donc, je vais le voir. Je dis, est-ce que ça va fermer ? Il dit, OK. Et puis, je dis, voilà, ça vous plaît ? J'ai fait le son. Il dit, ouais, c'est super parce que là, tu regardes le concert en Allemagne. Puis, de temps en temps, tu as les Filles du Kilimanjaro. Et de temps en temps, Someday My Prince Will Come. Donc, en fait, c'est la deuxième embrouille qu'on a fait. C'est que j'étais voir le commissaire. J'ai fait, hey, il y a Marcus Miller. Il adore le côté bordélique. Super. On a vendu que Marcus Miller adorait le côté bordélique. Donc, ça a fait la rue Michel. L'art contemporain, de toute façon. Souvent, quand tu vois certaines œuvres, tu te dis, elles veulent rien dire, c'est juste le cartel qui est à côté qui mérite que ça devienne une
œuvre. C'est le regard que tu poses dessus qui fait l'œuvre.
Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tellement. C'est-à-dire que le mec va prendre un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Non, en fonction de comment il va l'interpréter, ça va devenir une œuvre d'art. Donc, ça, c'est un petit peu un truc auquel j'ai pris une petite habitude maintenant, c'est de justifier les conneries que je fais par une démarche artistique. Et ça, ça les amuse beaucoup. Et voilà, dire non, mais c'est normal là, qu'il y ait du buzz. C'est d'époque, tu vois, c'est pour que ça vive. Bon, voilà. Mais bon, le gros progrès pour en venir à ce qu'on disait, c'est que les scénographes et les architectes commencent à prendre en compte les traitements acoustiques. Parce que pour le moment, tout ce qui est enceinte directionnelle, etc., c'est quand même pas terrible.
Ouais. J'ai souvenir qu'il y avait des cloches.
C'était des panneaux, on appelle ça les flatphones de chez TK Geomédia. C'était pas des cloches, c'était des panneaux Texa dans lesquels on intégrait des...
Oui, ça focalise pas.
Ils ont fait ça, parce que l'Expo Gainsbourg est parti après au Brésil. Et en fait, au Brésil, ils ont fait ça, ils ne se sont pas posé la question. C'est-à-dire qu'ils ont fait une boîte qu'ils ont suspendue au-dessus de l'endroit où tu dois écouter, avec une enceinte dedans. Mais une enceinte, c'était une UPMP, quoi. Oui. Et ça devient très directif, mais c'est le but. Mais je trouve que c'est beaucoup une meilleure solution que de chercher une enceinte où forcément, si tu la fais directionnelle, tu vas perdre quelque chose. Donc autant bricoler et rester sur ces solutions-là, qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire que le mec, il va rentrer et il aura du son, quoi. Il n'aura pas... tu vois.
À propos de bricolage, celui-là, on était un pas mal, si je me souviens.
Ouais, c'est le poste de radio, c'est pareil, le poste de radio, on l'a démonté.
C'est ce qu'il écoutait Miles quand il était petit, c'est ça ?
Voilà, c'est la première pièce de l'expo. C'est la bande sonore, c'était tout ce qu'écoutait Miles quand il était... Enfin, le jazz qui existait quand Miles est né. Oui. Et donc, l'idée, c'était que du poste de radio, on ait l'impression qu'il y ait du son qui sort. Donc, en fait, on a enlevé le HP, on a mis une MM4 dedans, on a bourré de laine de verre et on a refermé. Et ça marchait très bien, quoi. Du point que les gens tournaient les boutons pour monter le volume. Bon, les boutons, ils n'ont pas tenu longtemps. Hein. Après, on les a collés. Mais ça fait partie d'une... Je dirais, c'est plus de la scénographie. C'est-à-dire que c'est jouer avec le son et l'objet qui est présenté. Mm-hmm. Donc là, ça devient beaucoup plus rigolo. Et on a fait la même chose à Montréal. Bah, c'est l'adaptation pure et dure, quoi, du contenu, quoi. Le vieux vintage de Miles Davis, de l'époque, donc un vieux OBX-A, etc. Ouais, c'est un Oberheim. Et à côté, sur une pièce fermée, c'était le concert de la Villette, parce que là, on était... Sois fort, quoi, faut que ça vive. Alors à Montréal, on n'avait pas de Lake Mesa, donc on a fait tout le traitement sur le, directement sur le Samplitude, les EQ, les compressions directement, et on a gravé les DVD, on a mis ça directement dans le lecteur de DVD, et comme filtre, j'étais en 2+1, il fallait que je puisse filtrer ça, j'ai été un hérétique aux yeux de Meyer Sound parce que j'ai utilisé du JBL. J'ai utilisé les drive racks parce que je ne vois pas pourquoi j'aurais pris des Galileo qui valent 4 millions de dollars pour faire un 2+1. Donc j'ai pris des drive racks de base, DBX, qui marchaient très bien. Je rentrais un stéréo dedans et je sortais mon 2+1 en réglant tout ce que je voulais.
Pas forcément des écrans,
d'ailleurs. Bah, c'est, là, on parlait plus principalement de l'expo Miles Davis à Paris. Donc en fait, tu avais des écrans vidéo dans lesquels on diffusait beaucoup de documentaires sur la vie de Miles, des tas de choses. Et ça, tu les écoutais au casque. Et ce qu'on appelait les sourdines, donc ces pièces-là, qui représentaient chacune une époque de l'évolution de la musique de Miles, donc on partait de l'époque acoustique jusqu'à l'époque électrique, là, tu étais en live, ce qu'on appelait du live, c'est-à-dire que tu avais réellement des enceintes avec un sub pour écouter le son. Dans les enceintes-là, c'était des extraits d'albums de Miles. Les seules choses visuelles, si tu veux, qu'on ne voit pas là, c'est que tu as un tout petit écran sur la gauche, qui en fait était le cartel, qui changeait de couleur au fur et à mesure que le morceau avançait et qui t'affichait le nom du morceau, l'album où il était extrait et les musiciens qui étaient dessus et les programmes qui allaient arriver pour que tu saches ce qu'ils jouaient. Mais tu avais cette sourdine là, c'était les sourdines, ce qu'on appelait la Prestige, donc c'était les années Prestige, le label. Après, la première sourdine, c'était le Bebop. Après, il y avait Jill Evans. Après, Kind of Blue, qui méritait à lui tout seul une expo, oui. Presque. Et là, elles étaient assez bonnes et on est parti aussi des session tapes. Tu sais, ils ont sorti aussi tous les bouts où ils rataient, où ils allaient trop vite. Et d'ailleurs, c'était vachement intéressant parce que du coup, c'était un des seuls endroits où tu entendais la voix de Miles. Pendant les séances d'enregistrement, où il y a des moments fabuleux, où à un moment, tu as le mec à l'intercom qui dit à Miles « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et Miles répond « J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» quoi. Et après, en bas, tu avais une sourdine Bitches Brew, et l'autre, c'était On Off, donc la période funk. Toutou, lui, n'avait pas de sourdine, il avait juste un écran. Et la dernière pièce en live, c'était le concert de la Villette en Transmilla. Et à Montréal, on a repris les mêmes dispositifs. On avait fait le calcul, si tu voulais voir l'intégralité de tout ce qu'il y avait à voir dedans, t'en avais pour 18 heures. Le gars de la cité m'a dit qu'il y avait des gens qui revenaient 3-4 fois. Quoi. Des gens qui venaient avec leurs casques. Parce que la cité fournissait des casques à l'entrée. Et moi, j'y suis allé aussi et je voyais des tas de gens avec leur propre casque, le gros casque fermé, qui écoutaient, machin, et qui lisaient les partitions en même temps. Ça, c'est la difficulté aussi d'une expo comme ça, c'est que tu tombes sur des mecs qui sont extrêmement pointus sur le sujet, quoi. Tu te retrouves un petit peu à te dire où c'est que les premières impressions sont assez... t'angoisses un petit peu par rapport aux pros du jazz, entre guillemets, qui sont maintenant, pour moi, qui sont devenus presque aussi extrémistes que les classicos, quoi. Je trouvais un peu extrémiste dans le discours, etc., par rapport à la chose, quoi. Alors qu'en fait, t'écoutais mal, ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Ouais, parce que comme c'était des panneaux flatphone hyper directionnels, si tu le mets au sol et que t'as un sol en béton, bah, le son, il fait bing, bong. Donc, en fait, on avait mis des grilles, et en dessous, elles étaient remplies d'absorbeurs. Le problème, c'est qu'après, on avait dessiné des pieds sur les grilles, parce qu'en fait, les gens ne savaient pas se positionner par rapport à l'enceinte. Donc, c'est pour ça que le son directionnel dans les musées, c'est aussi un danger, quoi. C'est-à-dire que t'as un mec qui profite du truc, quoi. Je suis pas fanatique des systèmes directionnels, moi.
Tu as fait la mise en place sur Gainsbourg, mais tu l'avais pas conçu.
Non. Le truc, comme je dis, quand je fais du son ou de la vidéo, s'ils ont pas le film pour le mec, je leur mets les Simpsons. Moi, ça me gêne pas, quoi. Moi, quand je fais le setup, c'est-à-dire que j'interviens pas sur le contenu, le contenu me regarde pas. Je ne juge même pas le contenu. Tu vois, moi, quelque part, quand je fais des setups comme ça, je fournis un truc clé en main c'est le low équipement mis en route. Et j'assiste au réglage, parce que des fois, on utilise des machines un petit peu ésotériques, donc tu es là pour... Tu dis pas, mais tiens, voilà les clés, la Ferrari, elle est garée là, tu vas la conduire, quoi. Tu expliques un petit peu comment tu conduis une Ferrari ou un 38 tonnes avant, quoi. Donc, les contenus, moi, je m'en occupe quasiment pas, quoi, parce que d'abord, j'ai pas le temps, parce que ça va très vite, hein, à monter les expos, faut aller très très vite. Moi, je sais que sur Warhol, Lennon, etc., j'ai fait très peu de manipulations. Je préfère rester dans le son presque brut, tu veux faire trop de nettoyage, de compression, etc.
Et encore une fois, c'est une démarche d'efficacité plus que d'esthétique. Tu vas pas faire de la restauration sonore, tu vas faire de l'optimisation sonore.
Ouais, moi, je
pense que ça passe le mieux possible dans un
endroit. Que ça passe dans l'endroit, quoi. Donc,
sur Lennon, tu avais tout fait là, par contre.
Sur Lennon, Lennon, c'était à Montréal. Donc, voyez, si vous connaissez la Cité de la musique, voyez un petit peu la différence de hauteur. Oui. Avec Montréal.
Lennon, c'est le même endroit que tu fais.
C'est exact.
C'est le même endroit.
Lennon et Warhol, c'est exactement au même endroit que
là où on a fait.
Alors là, si tu veux, au niveau traitement acoustique, On a pu juste on aurait pu demander une moquette au sol, machin et tout, mais tu ne peux pas parce que l'artiste ne veut pas. C'est-à-dire que l'artiste c'était Yoko Ono et Yoko Ono ne voulait pas de moquette, donc t'as pas de moquette. Vas-y mon gars, débrouille-toi.
C'est formidable. Hein.
Et donc là on a travaillé à deux sur cette expo. On a travaillé avec un gars qui s'appelle Thierry Planel, qui lui en fait toutes les recherches des éléments sonores, l'école sur son Pro Tools dans l'ordre où il veut, machin et tout. Et après sur place. Moi, en fonction de ce qu'il fait comme choix sonore et en fonction de la pièce, on dit combien on va mettre d'enceinte, si c'est du 4+1, du 5+1, du 7+1. On est monté là, sur Warhol, on est monté jusqu'à du 7+1. Et après, je reprends ces éléments Pro Tools sur place et on traite tout sur place. C'est-à-dire qu'on fait les fades, on remonte, on traite, on compresse, on nettoie, on change des trucs.
Oui, ça, c'est une étape aussi systématique. Hein,
c'est obligatoire. Pour moi, c'est obligé.
Mais ça te prend une semaine à chaque fois, ou 10 jours, ou 15 jours
avec le Pro Tools et puis après, pour faire une pièce, c'est une journée. Tu as une journée de travail pour sortir du son sur une room, quoi.
Et là, comment tu t'étais dépatouillé, finalement ?
Eh bien, en fait, on a joué sur le fait que c'était un hall de gare.
D'accord.
On a fait des choses très éthérées, très diffuses, très...
Oui.
Tu vois, si tu veux, en plus, il faut penser le son en fonction de l'endroit où il va être diffusé. C'est-à-dire que cette pièce, c'était la rencontre de John et Yoko à la galerie, je ne sais plus quoi, à Londres, où Yoko a exposé ses œuvres pour la première fois. Donc son échelle, c'est une échelle, tu montes dessus, il y a une loupe en haut, il y a marqué Yes en tout petit, etc. Il y a une pomme. C'était la rencontre de John et Yoko. Donc on a voulu faire un truc très peace, très love. Et comme on avait une pièce immense, eh ben en fait, on a fait un truc avec beaucoup de réverb, très éthéré, qui flottait un peu comme ça. Il chantait une chanson à la guitare sèche, un truc très soft. Le haut-parleur qu'on voit un petit peu sur la droite là, c'était John et Yoko qui récitaient des poèmes. Donc c'est juste une petite voix. Voilà, des choses très petites, très ponctuelles. Ce qui nous a permis de jouer à des niveaux sonores pas trop élevés et de faire rentrer les gens dans le climat. Parce que la première pièce qu'on voit pas, c'était un espèce d'entonnoir noir comme ça. Et c'était John et Yoko, c'est sur le fameux Wedding Album, où ils disent John, Yoko, John. Un truc qui dure 15 minutes, c'est ça, c'est de l'art. Et donc tu rentrais là et John et Yoko s'appelaient et après tu passais dans l'expo et tu changeais d'endroit. Donc après tu passais dans la pièce où l'autre côté, tu vois, ça c'est la même pièce. Les vidéos étaient sonores mais nous gênaient pas parce que le reste des fois s'arrêtait. Mm-hmm. Voilà, le climat autour s'arrête, t'as les vidéos qui reprennent leur place et après on remet le son autour mais la vidéo on touche pas le son parce que c'est des trucs autonomes. On joue un petit peu là-dessus quoi, sur l'espace, les sons les uns avec les autres. Donc ça c'est une autre pièce. C'était le bed-in, parce que c'était pour l'anniversaire du bed-in à Montréal. Donc là, cette pièce était complètement différente. C'est-à-dire que c'était que les interviews télé, radio et toutes les conneries que John et Yoko ont fait dans la chambre. Donc c'était un joyeux bordel. Le son, c'était... Ah, c'est pas grave, on passait ça à fond. Parce que c'était l'ambiance, voilà. C'est dans l'ambiance, t'es à un moment, il fait « Radio Canada !»
Tu n'as voilà. pas nettoyé, tu n'as pas dénoisé.
Non, on a laissé ça brut, on a juste équilibré les niveaux les uns les autres. Document. C'est le côté document, t'es dans la chambre, parce que le truc, c'est que les gens s'asseyaient dans le lit.
Bah oui, sûr.
Tu vois, et ils étaient là, dans le bed-in, et tout, ils pouvaient même jouer, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà, là, t'es dans un autre esprit, donc tu te poses plus de questions. C'est pourri, c'est pas grave, parce que, voilà, t'es dans le truc. Dans la muséo, c'est en fait, comment tu vas traiter le son. Déjà par rapport au thème général de l'expo et au thème de chaque pièce de l'expo. Donc ça, c'était un truc. Après, ça, c'était un autre truc. C'était la War is Over, la fameuse affiche qu'ils avaient fait, War is Over if you want. Et donc là, c'était des écrans avec plein de documents de l'époque, de John avec son treillis, machin, qui disait I love peace, peace, peace. Et donc les écrans jouaient chacun leur tour. C'est-à-dire que c'était, voilà, c'est la guerre, donc... Mais t'arrivais quand même, parce qu'on fait quand même pas du bordel pourri, on arrive quand même que t'es devant l'écran, tu comprends quand même ce que ça dit, quoi. Mais on travaille pas un truc précis, tu vois, c'est plus la sensation que tu vas avoir en rentrant dans la pièce qui est importante. Là, le but que voulait la commissaire, c'était, c'est la guerre, et je veux qu'on voit le côté contestation des années 68, etc., je crois, de tout le mouvement Peace and Love qui est né, un petit peu le mouvement hippie, tout ce côté contestation. Donc c'était un peu, voilà, toute la contestation partout.
Et là, chaque
et d'un
écran
seul
était
coup,
sonore.
Chaque écran était sonore avec un son différent, puisque c'était des films différents.
Avec sa propre enceinte, alors, parce qu'on la voit pas.
Avec sa propre enceinte. En fait, l'enceinte est planquée dans la boîte. Donc c'était le bazar, t'avais plein de documents, machin, c'est la guerre, c'est la guerre. Et après, d'un seul coup, on passait sur un clip de John et Yoko, qui était Give Peace a Chance, qui passait en synchro sur tous les écrans, mais le son était deux UPMP qu'il y avait derrière et un sub. C'est-à-dire que le son venait d'ailleurs, et à donf. Donc tu changeais le climat de la pièce.
Ah ouais,
c'était toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'était un serveur qui disait tout ça.
Oui. Là, on a
à partir du moment où
tu es
synchrone, le DVD synchrone, moi je ne l'utilise jamais. Si tu veux, les systèmes 7400 Pioneer, etc. Je refuse maintenant de l'utiliser. On met tout sur des serveurs, des petits Aztec, des choses comme ça, des bonsaï, des petites choses comme ça, qui tournent en béton armé, qui seront toujours synchrones. Donc là, c'était là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait fait une timeline, on disait voilà, pendant 10 minutes, on va avoir plein de films. Et à ce moment-là, c'est ce film-là. Mais le son va être repris du troisième player qui, lui, a le son original, qui va rentrer dans les UPMP. Parce que quand les télés tournaient séparément les unes des autres, tu n'avais pas de son dans les UPMP. Tu vois, on changeait complètement le climat, quoi. Puis bon, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les bandes de vidéo des années 68, oui. C'est quand même pas
donc
top level, quoi. Donc, plus la compression MPEG, machin et tout qu'on oui. fait, machin. Donc, on arrive à sortir quelque chose. Souvent, on utilise au minimum de l'YC. Parce qu'après, trimballer des liaisons DVI-VGA, c'est extrêmement compliqué, quoi. Moi, je l'ai fait avec des extenders sur catégorie 5. On a un peu galéré, tu vois, c'était y a pour une expo à Paris, à Beaubourg, qui s'appelait le mouvement des images. Il y avait 13 vidéoprojecteurs, tout en résolution informatique SXGA+, donc liaisons DVI, machin et tout. Et c'était un peu d'une galère, quoi. Donc la vidéo de toutes ces années-là, ça reste du YC. Quand on veut une qualité supérieure, soit du DVI, etc., moi ce que je fais, c'est que je mets les lecteurs au dos des écrans ou des vidéos proches et je vais chercher l'audio. Parce qu'il est plus facile d'aller chercher de l'audio analogue, hein, gauche-droite, que de tirer du DVI sur 80 mètres. Donc c'est la solution qu'on utilise quand on veut mettre vraiment des images de très haute qualité. J'appelle ça des serveurs, mais ce n'est pas vraiment des serveurs. Ce n'est pas des serveurs informatiques, c'est des boîtiers Aztec qui en fait ont tout embarqué, qui sont grands comme un livre de poche, qui ont un disque dur, qui lisent la vidéo sur un disque dur.
C'est déjà des trucs,
voilà.
C'est déjà des trucs d'installation.
Et, c'est, bah, si tu veux, on détourne un petit peu. Il n'existe pas de matos spécifique pour la muséo.
Oui, complètement.
Donc là, ça commence beaucoup à sortir ce genre de matériel pour le digital signage. Alors justement, le digital signage.
L'affichage dynamique.
Tous les afficheurs dynamiques maintenant sont en réseau. Et tu contrôles tout par le web, etc., etc. Donc là, c'était une autre pièce. Donc c'était Imagine. Donc on avait c'était en studio d'Imagine en 5+1. Et les gens pouvaient jouer en même temps sur le Baldwin, au casque.
C'était installé un piano alors ?
C'était un vrai piano.
Donc il était en acoustique ?
Ouais. D'accord. Mais les gens venaient. Et puis c'était un piano électro-acoustique. Donc tu mettais un casque et tu pouvais t'écouter jouer. Mais...
Oui, aussi.
Et ça, c'est une autre pièce. Pareil, c'est le Wish Tree. Bon, c'est pareil, c'est des trucs très éthérés.
Ah,
parce que
ouais,
par exemple, si vous voyez. La différence ici, c'est qu'on a réussi à arracher de la moquette.
Elle a bien voulu.
Ça a dû être dur.
Elle a bien voulu.
Elle voulait une pièce entièrement blanche, donc on va pas repeindre le plancher. Donc on a mis une moquette. Mais moi, je dis un 5+1, mais c'est pas un réel 5+1. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était différentes versions de Imagine. Et en fait, à un moment, elle passait dans les deux enceintes qui étaient en face. Et la version d'après basculait, ça tournait en permanence,
d'accord.
Comme ça les versions, voilà,
multidiff
animé, voilà, et le son n'était jamais diffusé du même endroit. Là-dessus, c'était une des expos, on a utilisé un X48 Tascam.
Parce qu'il fallait synchroniser les...
Parce qu'il fallait que toutes les pièces soient synchronisées les unes avec les autres. Et sur cette expo-là, où nous est venue une idée sympathique, j'ai trouvé, c'est que, si tu veux, les boucles font jamais toute la même longueur. Donc quand tu fais sur ton X48 les copies, à la fin tu te retrouves, soit il y a des petits bouts de blanc ou tu dis bon bah celui-là on va répéter encore une fois ça, une demi-fois ça, on repartira là, mais tu n'arrives jamais à tomber pile poil ric-rac quoi. Donc à la fin on avait fait un petit blanc et on avait mis John et Yoko qui s'appelaient, sauf que là la seule différence c'est qu'ils s'appelaient dans toute l'expo. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'intégralité du bâtiment, tu entendais John, Yoko, John, tout ça qui se courait après dans toutes les pièces. En attendant la boucle. En fait, c'était un moyen pour nous de tout finir cut. La boucle était la plus longue, on l'a fini cut, à un moment ça faisait John. Et hop, on est reparti sur le derrière. On s'est dit on va coller ça tout de suite derrière. Et c'était le moyen pour nous de tricher un peu. Quoi. Mais c'était vachement intéressant, du coup ça nous a donné plein d'idées pour le futur avec Thierry. C'est que d'un seul coup, c'est plus une pièce qui bascule l'environnement, c'est l'intégralité de ton bâtiment. Dans ces cas-là, il n'y a que le X48 qui peut le faire. Parce que je ne laisse pas un Pro Tools 10 heures par jour, pendant 3 mois il va brûler. Il ne reste plus grand-chose en multipiste. Stable, il y a le X48, il y a le Alesis, je crois qu'on a un 24. Donc c'est un, tu vois, c'est un, là c'est intéressant de changer le climat général d'une expo quoi.
Alors on parlait oui, puisqu'ici on parle d'exposition thématique musicale, mais tu travailles aussi dans ce qu'on appelle des installations vidéo.
Voilà,
en fait.
Installations vidéo et audio pour des artistes quoi. Donc là c'est un artiste appelé Christian Marclay. Et là, c'est pareil, tout est toujours synchronisé. C'est-à-dire que toutes les vidéos sont synchrones.
Alors, on
Là, il y a quatre écrans et tu te mets au milieu.
Et la quatrième derrière deux.
C'est au milieu et quand ça démarre, le film démarre. Vous voyez des images de films, de cinéma ou de télé, de gars qui chargent des flingues sur les quatre écrans. Donc ça tourne, des images différentes. Et d'un seul coup, ils se mettent à se tirer dessus. Et en fait, avec la synchro qu'il a fait, les montages qu'il a fait, au bout d'un moment, ça crée un beat. Que ça crée un tempo.
C'est rythmique. Quoi.
Et c'est très très intéressant. Donc on tourne toujours avec des systèmes AdTech ou Bonsaï. Pareil, des petits disques durs embarqués, synchro par le réseau. Et ça marche nickel. Quoi. La seule chose extrêmement compliquée là-dedans, bon, ça sort un petit peu du discours d'ici, c'est la vidéo. Bon. Parce qu'on est obligé d'utiliser les projecteurs optiques courtes. Parce que les pièces sont très petites, mais on veut des très grands écrans. Mmh. Et qu'en plus, ils puissent avoir un chiffre vertical pour qu'on puisse les monter au-dessus du public. Enfin, c'est une des grosses contraintes de cette heure.
Quant au niveau du son, tu avais une contrainte aussi ?
Bah, c'est la dimension des enceintes aussi.
Et puis le niveau sonore.
Et le niveau sonore, c'est-à-dire que... Donc en fait, c'est une œuvre qui ne marche pas en dessous de 90 dB. Quoi. Sinon, ça ne vit pas.
Ça envoie du lourd. Quoi.
Ça envoie du lourd, mais sinon, ça ne vit pas. Sinon, tu n'es pas dedans. Quoi. Et après, on l'a remonté à Montréal. Pareil, la première réaction des gens, c'est qu'ils sortent. C'est comme s'il sortait d'un grand 8. Quoi. Déjà, la vidéo va extrêmement vite.
Ouais.
Extrêmement vite. Chaque image, c'est juste un coup de feu. Quoi. Donc t'imagines, et ça dure une vingtaine de minutes. Donc ça va extrêmement vite au niveau de l'image et ça va hyper fort et vite au niveau du son. Quoi. Et tout se suit. Toi. On va la faire cet été là, aux rencontres photographiques d'Arles. Ouais, c'est dans une expo qui s'appelle Shout.
Derrière chaque écran, deux meilleurs et un caisson.
Voilà, non, pas de caisson. On a essayé avec un caisson et en fait, ça marche pas. Un caisson de basse sur des coups de flingue, ça marche pas terrible. Et donc on l'a viré.
D'accord.
Et en fait, les deux enceintes sont au-dessus de l'écran. Au-dessus. Vraiment piquées vers la tronche. Et t'en as huit. Ça envoie du bois, comme on dit. Ça. Mais l'œuvre, elle demande ça, quoi. L'œuvre, elle demande ça. Il y a une autre œuvre qu'on va aussi exposer à Arles qui s'appelle Guitar Drag. Où en fait, là, il a pris une guitare, il l'a accroché derrière un pick-up avec un Marshall dedans. Il a accroché la strato. Il l'a branché, il a roulé avec le pick-up. Et l'image, en fait, c'est que tu vois la gratte qui se traîne sur la route. Et le son, bah, c'est le bruit d'une gratte qui est traînée sur la route. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Ouais, mais c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. » Donc j'ai baissé, quoi. Et Christian, l'artiste, est venu, il dit « Ah non, mais c'est pas assez fort, là. » Il faut que ça soit fort. Il faut que ça t'arrache la tête. Alors tu te dis, mais... au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire de... Je dis, mais c'est quoi ce truc, tu traînes une gratte. Et en fait... Quand il t'explique le pourquoi de l'œuvre, tu comprends. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'au Texas, des mecs ont pris un black, l'ont accroché derrière une bagnole et l'ont tiré. Et lui, il a dit, je vais faire un rapport, la guitare, strato, le blues, et on va la tirer, et la guitare, ce sera le mec qui va hurler, etc. Donc forcément, une fois que tu as pigé ça, tu dis, ouais, il faut que ce soit fort, et pour que le public s'en prenne plein la tête. Quoi. Il y a toujours des cartels. À l'entrée, il y a toujours une explication. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Souvent, l'œuvre ne veut rien dire en elle-même toute seule. Bien souvent, c'est l'explication qui l'a construite. Par exemple, j'avais fait la fameuse expo Le Temps Vite à Paris. Il y avait une œuvre, c'était deux colonnes en granit comme ça. Non, il n'y en avait qu'une, une, et dessus, tu avais une bouteille de vin, et derrière, tu avais une Ferrari, une Formule 1. Je dis à la commissaire, c'est d'accord, mais ça, c'est quoi l'explication ? Elle me dit, en fait, c'est la différence entre le temps très lent qu'il faut pour faire du vin et la vitesse où va une Formule 1. Ah ouais. Effectivement, oui, tout à fait, tout à fait. C'est très bien, j'aime beaucoup ce que vous faites. Il y en avait une autre, c'était une salade, quoi. Alors je lui ai dit, la commissaire, je lui ai dit, mais attends, on va faire le tour parce que je comprends rien à ton truc, là. Elle dit, c'est quoi c'est... Ben, la salade, c'est pareil, c'est l'action du temps, donc on change la salade toutes les semaines, quoi. Il a laissé faner, il a changé toutes les semaines. Et en fait, c'est l'explication qui, tu vois, parce qu'exposer une salade, ça veut rien dire. Mais c'est l'explication qu'il y a autour qui, d'un seul coup, fait qu'une salade devient une œuvre d'art. Il y avait un autre truc aussi, ça m'a beaucoup fait rire, ça n'a rien à voir avec nos rencontres aujourd'hui, mais c'était une boule de glaise, une immense boule de glaise d'un mètre de diamètre. Et la commissaire, je dis, ça c'est quoi? Elle dit, non mais ça c'est une escroquerie, on s'est fait avoir. Je dis, comment ça? Elle dit, ouais, parce que ce mec, il a fait cette œuvre-là, cette boule, et à l'époque, elle s'appelait autoportrait. Super. Peut-être donc il a fait une boule et c'est son autoportrait. Et après, il l'a pris et il l'a roulé dans les rues de New York. Donc il a prélevé des fragments du temps sur les trottoirs de New York. Et il a changé le nom de l'œuvre et c'est devenu Fragment du temps des trottoirs de New York. Ça aussi, tu fais, ouh là, lui il n'y a pas la lumière partout. Hein, c'est assez rigolo.
C'est vrai que tu as amené aussi à te mettre
alors, après, de ce genre. Voilà, après, on rencontre des gens. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on n'a pas de limite, en fait. Les artistes, ils se posent pas de questions, ils n'ont aucune limite. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais bon, c'était un dispositif qu'on avait fait pour les Nuits Blanches l'année dernière au Luxembourg. C'était un tas d'enceintes. Un tas d'enceintes, mais vides. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'enceintes vides, et il y en avait d'autres où il y avait vraiment des HP, donc il y en avait qui ne marchaient pas, et d'autres qui marchaient. et on diffusait du son là-dedans. C'était un truc de l'atelier de création radiophonique de Radio France, qui était très intéressante parce que tu avais des interventions de Lou Reed avec Laurie Anderson, de tas de gens comme ça qui parlaient. Et c'était diffusé dans ce tas de boîtes, très fort. Et ça, c'était une pure diffusion stéréo, mais sur 8 enceintes plus 4 subs.
Donc là-dedans, tu as des enceintes vides et tu as des enceintes qui fonctionnent vraiment.
Et du coup, c'est plus des enceintes, c'est un objet. Ça devient un objet sonore, ça devient une œuvre. Et ça a beaucoup fait rire les gens de Meyer parce que je leur envoyais la photo en disant... Ouais, parce qu'il y a du Meyer, il y a du Vedosk, il y a un petit peu de tout, quoi. Et je leur ai dit, voilà, je fais de l'art avec vos enceintes. Là, tu te poses pas de questions par rapport à la technique utilisée, tu vois, le son, d'où il vient, comment je le traite. Non, on envoie ça, on le retraite sur place. On essaie. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. C'est-à-dire que l'artiste, il part dans un délire, il faut que tu le suives dans son délire. Après, tu utilises les moyens techniques qui sont à ta disposition, mais je pense aussi sans jamais en abuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la technologie et la technique prennent le pas sur le ressenti que tu as ou le ressenti qu'a le public de ce que fait l'artiste, quoi. Et les limites sont vite franchies, le son, t'en fais avec tes oreilles et avec ton cœur, quoi. Le reste, tu t'en fous, quoi.
Et tu travailles sur quoi, là, en ce moment
En ce moment,
un projet avec des jeux vidéo.
Là on est dessus, on attaque ça bientôt. Ça va ouvrir le 21 juin au Sarcey Métiers.
Ouais.
Donc, c'est une expo sur le rétro gaming, mais là le son est plutôt anecdotique parce que c'est 21 consoles de jeux depuis Pong jusqu'à la PS2 qui sont exposées mais jouables. C'est-à-dire que tu pourras jouer à Pong, à Donkey, mais avec des vrais Atari de l'époque. Voilà, donc le son, je le sors, il sort sur les écrans à l'ancienne, quoi. Tu vois, on essaie de rester dans le jus. Donc les gens jouent, il y a un écran devant eux, et c'est repris par des vidéoprojecteurs. Donc on fait une grande frise de chaque côté des jeux sur des images de 2 mètres de base, sur 2 par 1,50, des jeux tout le long, quoi, sur 18, 19 mètres, je sais plus.
Il n'y avait rien de particulier à faire sur le son.
Non, là-dessus, tu te dis, bon, moi au départ, j'avais suggéré l'idée de mettre des vibroblasters sous les tables. Pour des raisons budgétaires, ça a sauté, parce que c'est toujours pareil. Et puis je me dis, bon, le son de l'époque, voilà, on va le laisser comme il était, ça va être un joyeux bazar, plip, 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 ça va vivre sa vie tout seul. Donc il y a ça, et puis après, donc, rencontre photographique d'Arles, où il y a l'œuvre de Christian, Crossfire, et une expo sur le punk rock. En fonction de chaque pièce, un environnement sonore à partir de trucs punk. Bien sûr, du Sex Pistols, il y a du Velvet, du Clash. Donc ça me fait beaucoup rire parce qu'on sort un petit peu les musées et les expos du côté culture avec un grand cul, quoi. Faire une expo sur le punk où tu dis là, on va foutre le bordel. Là, ça m'amuse beaucoup, quoi.
Tu as fait ça sur Warhol aussi, un peu.
Sur Warhol aussi, ouais. On avait présenté chaque pièce, en fait. C'était la relation de Andy Warhol et la musique. Donc là, la première pièce, c'était Andy Warhol et Hollywood. Donc il y avait les pièces de Marilyn, les fameux Elvis où ils se tirent dessus, etc. Donc là, c'était que des extraits de films d'époque, de la bande-son. Et on finissait, il y avait au milieu un concert de Velvet Underground qu'on avait reconstitué, EPI, Exploding Plastic, qui durait 25 minutes. Donc les gens restaient 25 minutes à écouter du son à fond. Donc, et nous, on y est passé après, un ou deux mois après, on est revenu à Montréal pour une autre expo et j'y allais voir. Et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'il y avait un canapé rond et les gens restaient dessus comme ça. Et il y avait une boule à facettes, ils regardaient les points qui tournaient et tu les voyais qu'ils avaient la banane parce que tu avais du Velvet qui jouait, quoi. Et la dernière pièce, c'était une reconstitution du studio 54. Donc là, c'était du chic, du Talking Heads, tout ça à fond la caisse dans l'expo. C'était pour recréer un petit peu tous ces climats différents. Et éventuellement, j'ai peut-être aussi l'année prochaine, fin de l'année, une expo sur Gautier à Montréal. Où là aussi, ça devrait être assez délirant. C'est-à-dire que maintenant, le son, comme il est rentré dans les musées et que les gens se rendent compte que ça ne pollue pas tant que ça, on peut commencer à se permettre des choses bien, bien randonnantes, quoi. Parce que la plus grande crainte des gens dans les musées, c'est la grève des agents d'accueil. Parce qu'il reste, faut les comprendre un peu, si tu veux, ils restent toute la journée au même endroit en poste à surveiller les œuvres. Donc si tu leur envoies de la musique à fond la caisse toute ta journée, le pauvre gars il rentre le soir et il se tire une balle, quoi. Alors on avait eu une fois une expo à Beaubourg qui s'appelait Son et Lumière, et dès que les agents ont vu le nom, ils ont posé un préavis de grève. Donc il y a la médecine du travail qui est venue, on a fait des mesures et tout pour définir les niveaux auxquels on allait travailler. En fait, le médecin du travail disait ce qui est le plus gênant, c'est pas tellement le niveau sonore auquel les agents d'accueil sont exposés, c'est la répétitivité de ce qu'ils écoutent. Des trucs qui durent 3 minutes et qui font... pendant toute la journée, tu pètes un câble, quoi. Tu pètes forcément un câble. Donc il y a Montréal pour Miles. Ils ont négocié, ils ont donné des bouchons d'oreilles pour les agents d'accueil. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de gens comme moi qui font attention à ce qu'ils font. Avant, mettre une vidéo, c'était une télé avec deux enceintes pourries, deux JBL Control One à fond la caisse, et ça fait la rue Michel, quoi. Maintenant, les gens commencent à se dire, on peut faire autrement et mieux, quoi. Et plus confortable pour le public, etc. Et pas forcément pour avec des moyens colossaux, quoi. Ouais, l'audio guide. Mais moi, je pense que l'audio guide, de la même façon que sur Miles, on avait mis des casques et du live, je pense qu'il faudrait que l'audio guide permette d'écouter des choses ponctuelles, mais que tu sortes de ton audio guide et que tu aies un environnement sonore autour. Les deux sont complètement jouables, mais faire pour moi une expo entièrement l'audio guide, c'est pas très intéressant, quoi. Les gens se parlent plus. Je vois sur, comme je disais, sur EPI et sur Miles, quand tu vois les mecs qui sont dans les sourdines, qui écoutent du son, et que tu rentres dans l'expo, que tu entends qu'il y a du son, et que tu es bien, c'est quand même mieux que de te trimballer avec une merde de casque pourri, avec un truc en MP3 tout naze, qui est compressé à la stooge. Mais même d'une façon générale, moi je dirais, tout le son qui a été fait mérite d'être respecté de comment il a été fait. Moi maintenant, le MP3, je comprends pas pourquoi on utilise le MP3 de toute façon. Je vois pas à quoi ça sert. Tirer un petit peu plus les choses vers le haut, ça fait pas de mal, quoi.
C'est en train de changer, on passe au FLAC. Ouais.
Ils ont fait l'expérience sur une expo. Ils ont fait l'expérience sur une expo de télécharger l'audio guidage dans un iPhone. Voilà. Au Louvre, tu peux prendre l'audio guide avec le visio machin et tout qui est en béton armé. Mais je ne sais plus quelle expo ils ont fait là, récemment. Ils ont fait l'audio guidage sur le MP3, sur le iPhone. C'est-à-dire télécharger l'appli iPhone machin. Ouais, ça a vachement bien marché la hotline. Hein. C'est que la hotline qui a marché. Hein. Ça marchait jamais. C'est-à-dire que les mecs n'arrêtaient pas de téléphoner. Ça marche pas. Je comprends pas. Combien de gens ont un iPhone et savent se servir que de 10% de ses capacités? Là, c'est pareil sur le truc qu'on avait fait aux Nuits Blanches. Tu pouvais downloader directement sur ton portable la bande-son. Le gars arrive avec sa board, machin et tout. Waouh, super. Tu sais, c'est du Bluetooth. Enfin, je sais plus. Ouais, il va trouver tous les téléphones Bluetooth qui sont autour Winamax. Et puis il va envoyer le truc. Ouais, super. Je prends mon téléphone, je fais, le mien, il ne l'a pas trouvé. Ah, mais t'es sous quoi? Je fais, c'est sous Windows. Ah ouais, non, mais pas Windows. Je fais, c'est tout le monde ou c'est personne? Tu vois? Non.
Oui, il y en a tellement.
Ce que je veux dire, moi, c'est que dans une expo, dans notre métier, oui, à nous, maintenant, il faut arrêter de diffuser du MP3. Moi, je l'ai fait, du MP3, parce que, comme tu disais, on n'avait pas les supports. On n'avait pas les capacités de stockage. Maintenant, tu vois, un lecteur flash qui te balance de la vidéo, tu peux mettre des cartes de 8. Ouah, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? T'as pas de palais mouche avec du vinaigre. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, moi j'estime que les gens qu'il faut respecter le plus, c'est le mec qui va aller acheter son billet pour aller voir une expo.
Oui.
Et que le mec il ressort, il a la banane, t'as gagné l'affaire. Si le mec il ressort, il dit ouais, le son était pas terrible, la vidéo elle était pas fluide.
Il reviendra pas.
Hein. Le mec il va dire, on m'a piqué mes 10 ou mes 15 euros.
Ouais, c'est ça.
Alors que le mec, s'il vient, il a dépensé 10 ou 15 euros, il a passé un super moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est pas ouais, j'étais le voir, c'est trop de la balle. Le son, ça déchire, la vidéo, c'est super bien. Voilà, t'as gagné l'affaire. La MAE, ça a fait 75 000 visiteurs.
3 mois,
une expo comme Lennon à Montréal, ça a fait 250 000. 250 000 personnes.
Ils attendent combien?
Warhol Live, ils ont fait 148 000.
Pas mal. Ils attendent combien pour...
Miles, ils espèrent taper les 150-200 000.
C'est ça.
Mais aussi, ils se sont donné les moyens. Moi, ça a été une lutte, la première expo que j'ai fait là-bas pour Warhol. Je me suis bagarré pour imposer mes systèmes. Le Pro Tools HD, il a fallu négocier pour un Pro Tools HD. Mais après, une fois qu'on a fait la première, ils se sont dit, en fait, les Français, ils sont casse-couilles, mais ça marche, quoi. On a fait la deuxième, là, ça a encore mieux marché, 250 000, ils ont fait, on va arrêter de leur casser les couilles. Et là, sur Miles, on était Royal au bar. Et nous, on a commencé au centre Pompidou, on a commencé avec des Acoustimas, Bose, tu vois. Et à un moment, tu te dis, c'est pas possible, tu peux pas travailler avec ça. C'était avec Gérard Chiron, moi j'ai travaillé 7 ans avec lui. Donc tu fais monter la mayonnaise au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'un jour, tu viens avec des petites MM4, alors tu mets de la MM4 partout, après tu viens avec des lakes que tu pilotes en wifi quel que soit l'endroit d'où t'es, toi t'arrêtes de régler au Toki avec des... tout ça l'évolution se fait pendant une journée et le final si tu veux c'est que les clients voient que les fréquentations augmentent, ils voient que les gens viennent au musée maintenant parce que venir au musée c'est plus aller s'enterrer dans un mausolée où faut pas dire un mot, faut pas moi c'est ce que je disais l'autre fois, je rentrais dans un musée, t'as l'impression que le petit chat est mort, quoi, tu vois. Bon, il est mort l'artiste, d'accord, mais il faut pas faire la gueule, quoi. Ça doit être un petit peu plus vivant, quoi. Tu vois. Donc c'est difficile sur certains musées comme le Louvre, etc. Je le comprends tout à fait que c'est compliqué. Mais dans l'art contemporain, dans des choses comme ça, c'est tout à fait jouable. Bah, le danger de l'expo sur la musique ou sur un musicien, c'est de tomber sur l'expo de fan, quoi. Avec le verre dans lequel il a bu en 1962. c'est aussi vachement le danger, quoi. Et en même temps, il faut en présenter un petit peu, mais...
Gainsbourg, ça m'a déçu qu'il n'y ait pas de piano, par exemple.
Mais ça commence à bouger dans les musées, et c'est très intéressant.
Mais en même temps, aux fabricants de matos et tout ça, tu leur poses des problèmes tout de suite. Là. Ah, encore
bah,
tout ouais. à l'heure, on
ouais,
ne
bah, oui,
dira pas où.
Pour Vecto, ça démarre sur détection de courant. Bah si, moi je mets la machine, un disjoncteur, et elle démarre. On dit, ouais, elle démarre. Je dis, mais elle démarre sur quoi? Est-ce qu'elle démarre sur la dernière mémoire qu'elle a rappelée, ou est-ce qu'elle démarre sur le début du show?
Ah ouais.
Parce que c'est des systèmes qui ne sont pas prévus pour, ouais. pour ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les systèmes comme ça, quand ils plantent, ils redémarrent sur la dernière mémoire rappelée. Parce qu'ils se disent, si c'est pendant un show live, il y a une coupure de courant, ça va rappeler sur le dernier setup et pas au début. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est que ça rappelle au début. Détourner des machines, en fait, on ne fait que détourner des machines qui ne sont pas prévues pour ça. Quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure le Tascam, qui avait le mode théâtre, qui était génial. Quoi. Il démarrait sur détection de courant, il rappelait la bonne mémoire, il faisait play et il tournait en boucle. Tu veux demander de plus? Le X48 ne le fait plus. Pourquoi?
À Montréal, c'est les agents d'accueil qui démarraient. Alors moi, quand je suis revenu un mois et demi après pour faire une autre expo ailleurs, tout était déréglé. Parce que t'as beau leur expliquer, leur faire des papiers, machin, de la mort, ils touchent toujours à ce qu'il faut pas, quoi. D'où l'intérêt des machines qui démarrent tout seuls. Ouais, dans les volumes. Parce que dès que le volume est accessible, si c'est trop fort, ah, ça fait chier, c'est trop fort, je baisse. Mais tu baisses pas qu'un volume. Quand t'as un 7 plus 1, t'en baisses 8, quoi. Mais le mec va en baisser qu'un ou deux. Donc tout était déséquilibré, quoi.
Ou ils oublient de mettre des amplis aussi.
Voilà, aussi, à Beaubourg, j'avais une dizaine d'amplis, donc deux racks de 5. Un jour, je viens sur l'expo, comme ça. Moi, je viens souvent en client, quoi. Et je me dis, c'est bizarre, il n'y a que la moitié qui marche. Donc, je dis, mec, comment ça se fait qu'il n'y a que la moitié qui marche? Ben, je sais pas, on a été dans la régie. En fait, il avait allumé 4 racks d'ampli sur 2. Mais la question que je ne comprenais pas, c'est qu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Ouais. Pour éviter ça maintenant, c'est qu'on n'éteint plus rien. Mais ça évolue. Les constructeurs commencent à avoir des gammes de matos, je ne dirais pas dédiées à la muséo, mais qui tiennent un petit peu compte de ce qu'on leur dit. Meyer, et je travaille beaucoup avec Meyer, ils sont assez collaboratifs là-dessus, ils ont développé beaucoup de gammes. Ils sentent que c'est
t'as quand su que bah, toi, tu as été précurseur finalement, parce que Behringer, j'ai vu qu'ils sortent une gamme de d'installations.
On peut le lire, hein, parce que sur Miles, en fait, tous les préamplis casques, c'était des Behringer. Ça marchait très bien. Et même politique, ça brûle, tu jettes. Tu cherches même pas à faire réparer. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ça tourne non-stop.
C'est faire un certain nombre d'heures.
C'est-à-dire qu'un dispositif qui tombe en panne, il ne faut pas que la machine soit difficilement remplaçable. On en achète une ou deux de spare pour avoir toujours un stock tampon. Et le client, tu dis, bah, achète-en deux de secours. Quand ça vaut 120 euros, il s'en fout. Mais si on avait mis des préamplis casques, je sais pas qui, truc mûche, que le mec, tu lui dis, ça vaut 2000, il faut que tu en achètes deux en spare. Le mec, dit, non, oublie quoi. Puis là, on en avait une quarantaine quoi.
C'est combien le budget à peu près son sur le budget de l'expo total? C'est 1%, ça, 2% comme en cinéma?
Ah, sur le budget, c'est difficile de...
Parce qu'il y a les droits à négocier.
Ouais, ça, le budget total d'une expo, combien elle a coûté, j'ai rarement eu les chiffres. Parce que c'est celui qui coûte le plus cher. Ce qui bouffe le trois quarts, c'est le transport et les assurances. Ouais. Mais en moyenne, nous, on tourne sur un budget audio uniquement. Ça tourne aux alentours de entre 20 et 30 000 euros.
Pour une expo comme Miles, par exemple,
ouais.
ou comme Gainsbourg
ouais.
ou...
Ouais. Là, c'est la punk que je fais à Arles, il y en a pour 25 000. Tu vois, c'est, voilà.
Et les enceintes, c'est loué, c'est acheté?
C'est que de la loc. Ouais. Sauf à Montréal. À Montréal, en fait, ils ont eu un partenariat avec Meyer. Donc Meyer leur a offert un pack de MM4 pour 150 000 dollars. Parce qu'ils étaient sponsors de l'expo. Ça, c'est du mécénat. Après, c'est de la communication. Par exemple, sur Gainsbourg et sur Miles, Dispatch était mécène. Mmh. Ou partenaires. Donc après, c'est de la communication, c'est de l'échange marchandises. Et après, en échange, effectivement, ils ont droit à des visites, à des soirées, un cocktail, machin, des soirées, des visites privatives de l'expo. Ça dépend du deal. Nous, on l'avait fait à Beaubourg avec l'entreprise avec laquelle je travaillais avant. Et pareil, on avait fourni 13 vidéoprojecteurs, des Christie. Et on avait eu en échange des conférences pour les enfants. Il y avait des conférences pour nos clients, des visites privatives, etc. Après, ça dépend du choix que tu fais et du blé que tu mets. Quoi. Mais ça se fait de plus en plus. Le mécénat d'expo se fait de plus en plus. Ouais. Ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne chose, parce que, comme je disais à Meyer, fais jamais ce que tu as fait au Canada à Paris, parce que du coup, le loueur ne loue plus rien. Ouais. Tu vois, c'est à double tranchant. Tu coupes l'herbe sous le pied aussi de ton prestataire. Le mec, il aurait loué, il aurait été content, mais du coup, il loue zéro peanuts, nada niente. Parce qu'ils ont maintenant, ils se retrouvent avec, ouais, je crois qu'ils ont une cinquantaine d'MM4, 14 UPMP, des subs, 2 X48, un Pro Tools LE. Là, on va passer certainement au DME 64. C'est-à-dire qu'à Montréal, ils ont découvert ça, les expos, ils l'ont découvert il y a 2-3 ans avec Warhol. Et là, du coup, on rééquipe tout le musée en fibre avec des régies centralisées avec des DME 64.
Ah, donc des terres simples, tout ça?
Ouais, c'est le gros projet. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, c'est aussi un truc qui est bizarre, c'est que eux, ce qui leur coûte très cher, c'est le câblage. Ah ouais. De faire tirer les câbles et de faire démonter les câbles, ça leur coûte très cher. Alors que nous, ça nous coûte un intermittent du spectacle. Je dis pas que ça vaut rien, mais ça. Alors ils vont faire une innervation dans tout le musée, avec des régies centralisées où on enverra en fait tous les signaux qu'on veut.
Ouais,
donc tu auras ton X48 et après tu matriceras ça où tu veux dans n'importe quel sens via les DME 64.
Ouais, 64.
Donc voilà.
Merci. Merci à toi.
Ouais.
Tu peux prêter ton magnéto, Philippe, c'est fini.
Autre radio, autre culture.